À l'entrée de cette deuxième semaine du tournoi à Melbourne, l'Open d'Australie, on a le plaisir de retrouver Stéphane Houdet. On va papoter un peu tennis avec Stéphane. Salut Stéphane.
Salut Christophe, et c'est vrai que c'est un petit peu notre tasse de thé.
Papoter, il y a longtemps que j'avais pas dit ça comme mot.
C'est ça de retrouver des Français.
Un tournoi qui est surprenant quand même avec tout ce qui se passe dans ce tournoi. Déjà, dès l'arrivée du côté féminin, Venus Williams qui décide d'être là, mais Serena Williams qui n'est pas là. Venus Williams qui sort au premier tour. Première fois depuis 21 ans où il n'y avait pas une sœur Williams au deuxième tour. C'était déjà une des grosses surprises. Puis du côté masculin, il y a eu des retours un peu mitigés de trois champions, trois ex-champions ici d'ailleurs. Sharapova, Djokovic et Vavrinka. Le bilan de tout ça, vous qui êtes un champion, comment vous voyez ça?
Ben moi, en fait, ça fait des années que je regarde le tennis et que j'ai l'habitude de dire que c'est le tennis qui nous surprend. Parce qu'effectivement, on pourra toujours jouer sur les surprises en première semaine, au premier tour. Mais je garde en tête mes échanges avec Stan Wawrinka après sa demi-finale ici, où il pensait être un peu là par hasard, entre guillemets, et n'avoir aucune chance. Et puis c'est son nom qui a été inscrit au palmarès, il a récidivé, il gagne Roland. Je me souviens de Marin Cilic et notamment de la demi-finale juste avant où le clan Federer regardait avec délectation finalement la victoire de Nishikori. Et c'était au moment où moi je partais voir mon match. Et puis en rentrant, non seulement Cilic venait de remporter la demi, mais en plus il allait jusqu'au bout. Je crois que malgré tout, hein, même si on parle toujours du top 4, le tennis a cette particularité de continuer à nous surprendre, et je crois que c'est aussi pour ça qu'on l'aime.
Ouais, absolument. Alors, le retour de quelqu'un comme Federer, qui a pris ce long break, ça a fonctionné pour lui. Vous croyez que ça a donné des idées à d'autres joueurs de se dire bon, ok, je vais prendre un laps de temps pour me réparer, pour me reposer, me reconstruire psychologiquement, mais n'est pas Federer qui veut en fait.
Oui, et en même temps, je pense que ce sont devenus des passages obligés parce que les corps et le tennis demandent de plus en plus. Il y a une couverture de terrain qui est incroyable, il y a une frappe de balle qui est incroyable. D'ailleurs, on voit aussi que les jeunes qui ne se posent pas de questions, comme notre Coréen Chung hier qui sort Novak en 3-7, où on se dit tous, j'imagine, il y a bien un moment où il va sentir qu'il est en train de se passer quelque chose, il y a bien un moment où il va sentir la pression et il va peut-être perdre le troisième. Et ben non, non seulement il gère bien, mais il gagne avec un calme et presque zéro émotion qui me laisse à penser qu'il n'a pas fini son tournoi. Il n'est pas sorti en disant « ça y est, j'ai fait le match de ma vie et ça s'arrête là ». Non, il était dans son truc jusqu'au bout. Il y a un grand en face de lui, mais je crois que lui, il est bien dans son truc. Et voilà, vous me dites, n'est pas Federer qui veut, c'est une évidence, mais n'est pas Nadal qui veut, n'est pas Wawrinka qui veut. Je pense que là, on a affaire à des grands noms, des grands joueurs, des approches psychologiques aussi qui sont construites depuis des années, qui font que y a un mélange entre le corps et l'esprit. Hein, c'était, même si je suis pas fan de tout ce qu'a dit Pierre de Coubertin et d'autres dans le groupe, mais c'est ça, ouais, un corps bien fait, enfin un esprit, c'est quoi la phrase déjà?
C'est un esprit bien fait dans un corps bien fait, je crois.
Ouais. Nous y sommes.
L'arrivée de ces jeunes pousses et le retour des plus vieilles pousses comme Federer-Nadal, aujourd'hui on peut même penser à rêver qu'une finale Federer-Nadal est encore possible, c'était déjà la finale l'année dernière, mais il y a ces jeunes pousses qui arrivent et au milieu on sent qu'il y a peut-être une génération qui a eu du mal à trouver ses marques à la suite des Federer, Nadal, Djokovic, etc. Et là, aujourd'hui, ils ne sont pas là.
Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être une génération qui a été compressée entre les nouveaux et puis les plus expérimentés, qui est certainement la génération qui a vécu avec le Big Four, qui a souffert de ça, probablement plus psychologiquement qu'autre chose. Mais c'est vrai que... il fallait peut-être, mais c'est un peu aussi les générations X, Y, Z, là où on voit nos enfants, puisque moi j'en ai, se poser d'autres questions que nous et avoir une approche. Alors on dit, hein, même les neurobiologistes sont capables de se rendre compte que nos cerveaux ont changé, ont été modifiés. On les voit toujours avec les portables où on se dit ils sont concentrés sur le portable, mais en fait, les neurobiologistes se sont rendus compte aussi qu'il y avait des nouvelles aires du cerveau qui étaient utilisées, et pendant qu'ils sont sur le portable, ils ont une aptitude différente de la nôtre à être capable à faire plusieurs choses en même temps. Ça veut dire qu'ils enregistrent plusieurs informations en même temps, et puis moi ça fait une quinzaine de jours là que je travaille avec l'équipe australienne, c'est un coach australien que j'assimile un peu à Bruce Lee, et voilà, ça c'est un mélange d'anciens et de nouveaux, et ce gars là il me dit une chose très importante, c'est de travailler sur notre éveil des sens, c'est-à-dire qu'on regarde quelque chose en particulier mais en même temps on voit tout ce qui se passe autour. Et je pense que c'est un peu ça entre la génération des plus expérimentés et des Roger, des Rafa, Andy, Novak, et puis les plus jeunes comme Sandgren, Chun, tous ceux qui sont encore présents.
D'accord, du côté féminin, avec un tableau qui est quand même globalement ultra ouvert, ça s'ouvre dès que Serena n'est pas là, presque sur un grand chelem, mais ça reste ouvert. Est-ce que Alep ou alors Wozniacki peuvent finalement gagner leur premier grand chelem ici?
Bah, ce sont elles qui nous donneront la meilleure réponse. Hein. Tout à l'heure, j'étais à côté de Simona. Bah, même à table, c'est une question qu'on se pose tous. Je pense que c'est une question aussi que ses partenaires se sont posées. Ouais, encore une fois, c'est entre ces deux oreilles que ça se passe. Est-ce qu'elle pourra gérer ses émotions au bon moment? Bon, pour l'instant, ça ne s'est pas fait, mais je pense aussi dans un autre sport à Sergio Garcia. Puis pendant des années, il ne l'a pas fait, et puis un jour, il l'a fait. Et puis c'est le bouton qui déclenche la suite.
Caroline Garcia qui sort de ce tournoi alors que le tableau était super ouvert, c'est presque dommage parce qu'il y a vraiment une grosse opportunité pour Caroline de mettre un coup de poing un peu dans la hiérarchie justement du tennis.
Moi j'ai assisté au match, hein, j'étais au bord du court, ça a mal commencé, il faut dire que ça sort un match juste parfait. Où elle répond aux attaques de Caro, elle a ce jour-là un revers qui est incroyable alors que c'est plutôt son point faible. D'ailleurs, pour moi c'était une surprise, après j'ai eu quelques échanges, mais je l'ai vu en fin d'année beaucoup gagner en servant sur le T et en surprenant ses adversaires. Et là, elle est allée beaucoup sur ce qu'était soi-disant le point faible de Madison sur le côté avantage sur son revers. Et bah, ça n'a pas souri, je pense qu'après il y a de la tension, il y a un match qui se déroule à l'envers, le fait d'être derrière au score, de ne pas pouvoir revenir, c'était pas le bon jour. Mais il y en aura d'autres et on peut faire confiance à Caro sur le sujet.
C'est beau le tennis pour ça.
Hein. Mais oui, c'est ce qui est magique. Et moi, d'une façon générale, hein, je suis fan de sport, je ne suis pas fan de joueurs en particulier, mais je suis fan des beaux combats. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a ça, et ça nous arrive de plus en plus souvent, c'est extraordinaire.
Allez, on va parler un peu de vous. Cette Australian Open, je sais que vous l'aimez. Comment vous l'abordez cette année, cette Australian Open?
Bon, alors cette année, c'est un peu particulier en fait, parce que je gagne le dernier grand chelem de la saison avec l'US Open. C'est une saison qui est à l'image de ce qui est en train de se passer dans le tennis fauteuil ces derniers temps, à savoir que 4 grands chelems, 4 vainqueurs différents, 4 nationalités, un très jeune qui gagne Roland-Garros, le plus jeune du circuit, un ancien, c'est moi, qui gagne New York, un Suédois qui gagne sur herbe, notre deuxième simple à Roland-Garros, et puis bah, l'Argentin qui est numéro 1 mondial, qui gagne en Australie, qui aime la chaleur, qui se sent un peu chez lui, même si j'aime bien lézarder au soleil. Donc on a aussi un tableau, comme on disait tout à l'heure pour le tableau féminin, un tableau qui est très ouvert, où tout le monde peut gagner, et bah, je fais un beau tournoi la semaine dernière, malheureusement le dimanche, je me blesse à l'épaule et donc là j'ai pris 2 jours de repos pour travailler avec les kinés et les médecins sur cette problématique. Je vais retaper la balle ce soir, donc après 48 heures hein, qui était un petit peu obligatoire, et en même temps des interrogations qui vont jouer aussi avec beaucoup de plaisir, parce que le fait d'arriver sans a priori, c'est aussi une manière d'être réveillé. D'analyser un petit peu mieux ce qui se passe et puis d'avoir le plaisir tout simplement d'être sur le court. J'ai eu la chance d'échanger ces 2 derniers jours avec Stéphane Robert qui me raconte sa journée où il est dans les rues de Melbourne à 10h30 du matin sur son vélo à partir pour jouer avec le gars chez qui il loge, qui est un équivalent de 32 en France, donc presque un non classé. Ensuite il va jouer avec, j'ai du mal à le dire, mais c'est Poutine Seva. Et puis après, il va jouer avec Roger. Donc lui, il sait dans sa journée, il me dit, il me reste plus qu'à jouer qu'avec toi, comme ça j'aurais fait tout le monde du tennis.
Et il veut pas?
Ah si, bien sûr, on va le faire. On va le faire, c'est moi hier qui devais être au repos, mais à la première occasion, on va taper la balance, hein, bien sûr.
D'accord, l'objectif ici, il est où alors pour toi?
Bah, l'objectif, ça a toujours été le même. Hein. Alors, pour parler comme les spécialistes de la préparation mentale, c'est qu'on a pour objectif de jouer chaque point à 100%. En jouant chaque point à 100%, on marque des points, des jeux, des matchs, et éventuellement, en gagnant des matchs, on gagne les tournois. Pour faire simple avec le grand public, il faut aller jusqu'au bout. C'est ça l'objectif.
Et en double ?
Eh bien, en double, c'est la même. Hein. Ça fait, là, nous, on commence 2018. On est à 2 victoires sur 2 sur les 2 tournois de préparation. Super Series à Sydney. Le tournoi avec Craig Gibbon la semaine dernière. Avec une surprise, puisque les Anglais perdent en demi. Et c'est la paire qu'on rencontre régulièrement en finale de tournoi. Maintenant, c'est un format particulier parce que c'est sans avantage et puis match tie-break. Donc là, ça va très vite. C'est un peu plus pile ou face que quand on va avec un troisième set. Mais évidemment, les objectifs sont clairs. Et puis, la Fédération française de tennis, qui s'occupe maintenant du tennis en fauteuil, aime aussi ce sujet et cette dynamique de la gagne. Pour eux, c'est la France qui gagne.
D'accord. Et ça a changé d'ailleurs des choses qu'on en avait pas mal parlé, toi et moi, de l'intégration du sport donc dans la Fédé. Là, maintenant, c'est vrai, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé. Ça a changé les choses ?
Alors, c'est en cours de changement, parce qu'il y a eu, comme vous le savez, un petit peu de temps pour la nomination du nouveau DTN. Finalement, le DTN a mis en place la politique sportive et puis est parti juste après la Coupe Davis. Ça s'est passé juste quelques temps avant la nomination, enfin, du référent pour ce qu'on appelle le paratennis. Donc, c'est tout frais, même si la présidence a maintenant un an. Cette intégration est toute récente, et la mise en place des actions aussi. Donc on sait qu'on va être face à de nouveaux beaux jours, disons qu'on est en train de les vivre en ce moment.
Donc on peut vous souhaiter quoi ? Victoire en simple, victoire en double, et puis une belle saison, c'est un peu ce qu'on peut vous souhaiter cette année pour 2018 ?
Ouais, on peut tout simplement aussi nous souhaiter de continuer à prendre du plaisir sur les terrains avec la balle jaune, et nous c'est ce qu'on aime.
Merci Stéphane, on se retrouve plutôt vers la fin du tournoi.
Merci Christophe, merci à vous.